Tendance RH en partenariat avec JobSphérique.
Bonjour, bienvenue dans Tendance RH. Aujourd'hui, nous abordons le futur du travail en compagnie d'Alain Tetaldi, directeur général de l'Institut Esprit Service. Bonjour Alain.
Bonjour Christelle.
Alain, présentez-nous en quelques mots, pour commencer, l'Institut Esprit Service.
L'Institut Esprit Service travaille sur les futurs. C'est un think tank, une association qui aborde les mutations sociétales et leurs impacts dans les organisations publiques, les entreprises, les écosystèmes. Nous travaillons sur la santé 2030, les villes de demain, l'enchantement, les ruptures numériques et bien sûr, objet de notre interview, le futur du travail.
Au-delà d'une transformation numérique, vous dites que nous sommes confrontés à une transformation tout court. Pouvez-vous nous expliquer cette analyse ?
Cela signifie que le monde du travail est en ébullition. On n'est plus dans des révolutions dites industrielles successives. Maintenant, on assiste à un bouillonnement permanent qui percute, qui déstabilise les organisations et les comités exécutifs. Il y a bien sûr, derrière cette évolution du travail, l'irruption des solutions d'intelligence artificielle qui remet en cause les métiers existants, les métiers d'hier, du passé, et les métiers d'aujourd'hui également, soit en les détruisant, soit en substituant de nouveaux métiers. Et il y a bien sûr la problématique des emplois de demain, des nouveaux emplois dont nous n'avons pas nécessairement d'ailleurs une vision très, très précise hein, de la nature même de ces métiers. Donc que faire par rapport à cela ? Dans un contexte d'évolution des marchés et d'intensité concurrentielle accrue, donc c'est la remise en question des schémas traditionnels dans lesquels les entreprises en particulier s'établissaient depuis très longtemps. Nécessité de travailler en circuit court, nécessité dans le même temps d'intégrer des démarches du futur, des démarches de long terme, de prospective. Et c'est ces temps lents et temps courts qui se percutent. Comment survivre dans les marchés ? Quelle sera notre performance collective demain ? Et bien sûr, pour les salariés et les collaborateurs, quelle sera la performance individuelle de tout un chacun sur toute la durée du travail ? Durée du travail qui s'allonge de plus en plus. Hein, on parle de 45 ans, de 47 ans. Donc ça veut réellement dire comment créer les conditions pour que tout un chacun trouve sa voie et que nous raisonnions non plus en linéarité, parce que le mono-emploi tout au long de la vie, c'est bien sûr terminé aujourd'hui, plus personne ne peut penser le contraire. Donc comment penser aux passerelles, comment intégrer les mobilités économiques, professionnelles, sociales, et c'est ça le futur du travail aujourd'hui, les grands enjeux sont là.
Comment la déferlante technologique va-t-elle impacter notre quotidien et le fonctionnement des entreprises de façon générale ?
Il me semble qu'il y a deux défis majeurs auxquels nous devons répondre, et répondre dès aujourd'hui, même si on se projette dans cette perspective du 2030-2040. Premier grand défi, c'est apprendre à apprendre. C'est vraiment ce défi de la connaissance. Comment créer les conditions en termes d'acquisition de compétences, les fameuses soft skills, ces compétences émotionnelles ? Ça, c'est le premier point, pour garantir justement l'employabilité de tout un chacun et surtout de mettre en cohérence l'offre et la demande sur le marché du travail, qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Si nous avons des taux de chômage structurel particulièrement élevés, je dirais anormalement élevés dans nos pays développés, c'est bien parce que l'offre et la demande ne se rencontrent pas. Et qu'il y a à un moment donné des injonctions paradoxales qui font que cela ne matche pas, si vous me permettez cette expression. Donc premier défi, défi de la connaissance. Et puis le deuxième défi, c'est le défi que j'appellerais du hacking des organisations, avec des modèles organisationnels très verticaux, très pyramidaux, très hiérarchiques, qui ne correspondent plus aux intérêts économiques aujourd'hui de nos organisations, je parlais de compétitivité et de performance tout à l'heure, mais aussi qui ne répondent plus aux aspirations des jeunes générations, mais des jeunes générations et des moins jeunes générations. J'ouvre une parenthèse en disant qu'il faut arrêter les clichés sur les millennials. Les millennials ne sont pas si différents que ceux-là des moins jeunes générations. Simplement, c'est l'expression même de leurs aspirations, de leurs attentes, qui n'hésitent pas à faire remonter au plus haut niveau dans les organisations. Je ne veux pas aller là où il n'y aura pas de sens, où il n'y aura pas d'épanouissement potentiel, où je n'aurai pas de responsabilité. Donc si les organisations manquent d'audace, si les organisations manquent d'inventivité, eh bien, les jeunes et moins jeunes iront ailleurs. Et c'est ce que nous commençons à voir, je le dis avec beaucoup de précaution, avec un accroissement du nombre de travailleurs dits indépendants, qu'on appelle freelance, etc. Enfin, en tout cas, il y a à la fois cette logique du multisalariat et du travail indépendant qui se développe, parfois par contrainte, mais aussi parce que les organisations traditionnelles ne répondent plus à ces nouvelles aspirations sociétales. Donc là, nous avons là un point critique sur lequel il faut absolument répondre dès aujourd'hui, pour ne pas perdre en termes de lien social et ne pas perdre du monde en route, ou en tout cas au milieu du chemin.
Les nouvelles générations cherchent aussi des rémunérations, bien qu'elles soient en quête de sens, non ?
Déjà par cohérence et par recherche de pouvoir d'achat. Vous avez 50% des étudiants aujourd'hui qui ont un job. S'ils ont un job, ce n'est pas pour le plaisir d'avoir un job. C'est aussi parce qu'il faut pouvoir financer leurs études. Donc il y a une problématique sociale qui n'est pas anodine. Et l'argent est bien sûr un moteur en soi. Peut-être pas le moteur premier, mais une des composantes naturelles. Et d'ailleurs, se pose derrière cela la question de l'attractivité, la question de la précarisation, notamment dans tout un ensemble d'écosystèmes start-up, qui pose de vraies problématiques. La question de la création de la valeur et du partage de la valeur ne sont pas des mots. Ça veut dire aussi, derrière cette question de l'argent que vous évoquez, Christelle, qui est de dire aussi, c'est la combinaison à la fois de passer du rêve à la réalité. On a tous des rêves à un moment donné, des rêves sociaux, des rêves d'emploi, des rêves de positionnement dans la société. Et puis cette réalité professionnelle, parfois un peu brute, parfois un peu froide, qui peut réfrigérer et derrière cela, endiguer les meilleures volontés. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que les employeurs publics privés aient de plus en plus cette capacité à offrir des perspectives, des trajectoires, des ambitions.
Alors comment susciter l'engagement ?
Il y a beaucoup de polémiques aujourd'hui sur l'engagement, désengagement, réengagement. Mais derrière la problématique d'engagement au sens philosophique du terme, c'est le sens, mais le sens de sa propre vie qui est important. Et derrière cette logique de sens, on avait organisé récemment un événement sur sens, plaisir et performance en essayant de combiner les trois dimensions qui sont certainement le terrain de jeu de demain. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'apporter du sens, de créer du sens et d'être compétitif et performant. L'un ne va pas sans l'autre aujourd'hui. Et c'est cette combinaison-là qui va permettre demain justement d'attirer les talents. Les talents, c'est tout un chacun, ce n'est pas une dimension élitiste des talents. Mais c'est d'attirer les bonnes personnes qui permettront justement de développer, de grandir.
Quelle place pour le travail dans nos sociétés dans un futur proche ?
Déjà, nous assistons à une porosité accrue entre vie professionnelle et vie personnelle. Et l'environnement numérique, les réseaux sociaux ont accéléré cette dimension-là, qui peut générer néanmoins des contreparties de demandes de déconnexion, par exemple. Mais porosité, vie professionnelle, vie personnelle, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il y a de plus en plus une articulation et que le travail n'est plus le cœur même d'une vie, mais une composante forte. Donc ça veut dire aussi quand on parle de slasher, quand on parle de zapper, quand on parle de distanciation du lien social et de la relation au travail, on est vraiment sur ce terrain-là. Ce terrain-là qui est de dire qu'aujourd'hui, si l'emploi qui m'est proposé ne correspond pas à mes attentes, demain je partirai sans préavis. Ou disons conformément à la législation, mais je partirai, du jour au lendemain ou presque. Ça veut donc dire que la rétention des talents, que l'attractivité des employeurs, que l'image... Moi, je ne parle pas de marque employeur, qui est pour moi une notion très galvaudée et qui n'est pas un sujet, qui est un sujet marketing RH, mais qui n'est pas le sujet. Moi, je parle d'image employeur, donc la perception par les futurs employés ou les employés existants. C'est ça qui est fondamental. Donc, comment les organisations, quelles qu'elles soient, petites et grandes, publiques et privées, comment vont-elles répondre à ces nouvelles aspirations ?
Merci beaucoup Alain d'être venu nous exposer votre vision.
Merci Christelle, au revoir.
Et quant à nous, nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle émission. Au revoir.
Tendance RH en partenariat avec JobSphérique.